Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 61. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en Yin Yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement. En revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, je reçois ma collègue Vanessa Véran. Vanessa transmet le yoga avec douceur et tranquillité. Et c'est cette énergie que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode. Je vous laisse donc en bonne compagnie et on se retrouve pour la conclusion. Bonjour Vanessa.
Bonjour Sandrine.
Comment tu vas aujourd'hui ?
Écoute, ça va, je suis ravie de cette invitation, en même temps un peu stressée comme toute intervention. Mais je suis très contente d'être là et de pouvoir échanger avec toi.
Ouais, super, je suis ravie parce qu'on passe notre temps à se croiser, ça nous permet aussi d'aller un petit peu plus en profondeur dans tous ces petits échanges que l'on a de temps en temps. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Je donne des cours de yoga, j'ai le plaisir de proposer des cours de yoga, essentiellement des cours de vinyasa et aussi de yin, ainsi que des formations autour du vinyasa, du yin, de l'alignement et des retraites. Depuis quelques temps aussi, j'aime beaucoup proposer des retraites d'un week-end ou d'une semaine pour partager un peu plus sur le yoga avec les pratiquants.
Est-ce que tu peux nous dire, parce que les auditeurs posent souvent cette question de comment est-ce que les profs de yoga pratiquent, est-ce qu'ils pratiquent tous les jours régulièrement et comment est composée leur pratique? Est-ce que tu pourrais nous dire comment est ta pratique, toi, ces derniers temps?
Alors, c'est vrai que c'est une question, il y a même beaucoup d'élèves à l'issue des cours qui me posent la question. On a un peu cette image du prof de yoga. Elle est très irrégulière au fil du temps, des années, elle évolue. C'est vraiment à chaque période de ma vie, j'ai l'impression que ma pratique évolue. Et en ce moment, elle est alors pour des raisons qui me sont très personnelles. Je travaille beaucoup sur les inversions depuis quelques temps, donc c'est sur un plan postural. Hein, je parle de la pratique posturale du yoga et je n'ai pas de. Je pratique un petit peu tous les jours, mais j'ai pas de temps imparti. Je me lève pas à une heure particulière tous les matins pour pratiquer. Quand je propose des formations et que j'ai des formations toute la journée, j'ai beaucoup moins de temps. Je donne aussi beaucoup de cours, donc en fait. Voilà, je m'impose pas en fait une pratique à heure fixe tous les jours.
Très bien.
Et j'aime beaucoup aussi pratiquer avec d'autres enseignants. Enfin, j'aime aussi être guidée, j'aime aussi être accompagnée. Donc pour la pratique posturale, c'est ça. Néanmoins, tous les jours, le yoga est quand même présent dans ma vie, que ce soit par une lecture, par un chant, par un peu de musique, par une méditation, par un pranayama.
Ça marche. C'est vrai qu'il n'y a pas que la pratique posturale. Il y a tellement de choses possibles autour et qu'on a tendance à réduire aux postures, au pranayama, alors qu'il y a tout un champ qui peut rentrer finalement au quotidien, comme effectivement, comme tu le dis, une lecture, une méditation. Et ça fait longtemps que tu pratiques ?
Mon premier cours de yoga remonte à très très longtemps, quand je suis arrivée à Paris il y a 20 ans, je crois maintenant. Et je n'ai pas tout de suite accroché avec le yoga. Hein. Je faisais surtout de la danse, beaucoup, beaucoup de danse et j'ai mis du temps. Donc en fait, ça fait un petit moment que je pratique, mais mes débuts ont été un peu chaotiques. J'y suis allée, j'en suis revenue, j'y suis retournée. Enfin voilà, ça a été vraiment un peu tumultueux. Mais c'est ce qui fait sa richesse aussi. Je crois que c'est assez confrontant aussi.
Ok, et est-ce que tu as trouvé ce fil qui te faisait revenir et repartir ?
Oui, je crois avoir trouvé, oui.
Et qu'est-ce que dans toute cette pratique, dans ces allers-retours que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu as appris sur toi ? C'est une question qui est un petit peu bizarre, j'avoue. Mais ça permet De se dire que le yoga, c'est pas qu'une question de, comme on disait tout à l'heure, de posture, de s'installer sur son tapis, c'est aussi se mettre à nu vis-à-vis de soi, c'est aussi se redécouvrir, c'est faire face à des sensations, des émotions. Donc on est seul sur son tapis. Même si on est dans un cours, on est seul face à soi-même. Et au fil du temps, au fil de la pratique, quand on décide de pratiquer par soi-même, dans son salon, sur son tapis, son coussin de méditation, on est seul face à soi-même et on a tous appris quelque chose sur nous pendant des petites périodes, sur de longues périodes. Voilà pourquoi je te pose la question, parce qu'on se dit que ce n'est pas qu'une question de posture, mais une question de connaissance de soi.
C'est ça, effectivement, qui fait que c'est un peu difficile, c'est ce miroir que nous renvoie la pratique du yoga, en fait, hein, d'être confronté, c'est ce mouvement vers l'intérieur, ce repli vers l'intérieur, qui ensuite, je trouve, par la suite, c'est pas qu'un mouvement de repli, puisque ce mouvement de repli, je trouve qu'il nous amène vers l'extérieur, vers les autres, mais il y a quand même cette étape qui est nécessaire, qui n'est pas toujours facile et qui nous met face à notre fragilité, face à nos doutes. Parfois, on arrive à percevoir une certaine force aussi. Donc, voilà, il faut composer avec tout ça. Mais oui, le yoga amène à tout ça. C'est ce chemin, ouais, c'est cette voie un petit peu de la vie.
Tu
Je ne
vois,
sais
moi,
pas si ça répond à ta question.
absolument, ça répond à ma question et ça me fait beaucoup sourire parce que il y a parfois cette image qui est véhiculée du pratiquant toujours satisfait, toujours content et que la pratique est toujours géniale, extraordinaire, etc. Et en fait, c'est semé d'embûches parce que on n'a pas envie de pratiquer, parce qu'on a toujours autre chose de plus important à faire, parce que certains jours on n'est pas dans les bonnes tonalités émotionnelles, on va dire, on a plus envie d'aller sous sa couette. Mais en même temps, quand on arrive sur son tapis, ça nous permet de trouver ce qui se passe à l'intérieur de nous et de comprendre comment ça fonctionne. Donc effectivement, ça répond aussi à ma question sur le fait que rien n'est jamais lisse et que la pratique du yoga n'est pas forcément exceptionnelle et géniale tout le temps. Il y a beaucoup de déconvenues aussi, et ça fait partie
Oui,
du chemin.
mais il se passe toujours, en tout cas, il se passe toujours quelque chose. Quel que soit ce qui se passe, à chaque fois, il se passe quelque chose. C'est ça qui est intéressant.
Et en tant qu'enseignante, parce que tu fais donc des formations, c'est ce que tu nous disais en présentation, est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur, qui te permet de diriger tes élèves au fil, ben, soit des cours, soit des saisons, soit des années? Quelle est ton intention générale, ton envie de transmettre?
En fait, ce que j'espère et ce que j'essaie de proposer, c'est vraiment une exploration du soi. C'est vraiment les amener à explorer par eux-mêmes et être de plus en plus autonomes dans leur pratique, très modestement, hein, de façon très, très, très modeste. Mais c'est vraiment essentiellement, donc quand on donne des cours, c'est essentiellement du yoga postural, même s'il y a des petites choses qui infusent quand même, simplement dans la façon d'enseigner, dans la façon de dire les choses. Mais c'est ça, c'est qu'ils se posent, qu'ils portent ce regard sur eux-mêmes et qu'ils explorent et que le corps est vraiment le moyen, en fait, d'aller vers autre chose.
Et quand tu dis aller vers autre chose, tu penses à quoi?
Ça permet d'aller vers un peu plus de connaissance de soi. Donc, parfois, ça accompagne des bouleversements de choix de vie, ça accompagne voilà, des grossesses, c'est merveilleux. Enfin, moi, j'ai vraiment aussi beaucoup de plaisir à voir les mamans qui arrivent et puis qui jusqu'à une semaine avant l'accouchement sont là et que je retrouve après et je vois les enfants. Et voilà, je dis qu'il se passe beaucoup de choses. Ça peut être des changements de vie, des changements professionnels, des déménagements, et même dans la pratique, je trouve simplement la façon d'être, la façon dont les personnes arrivent au cours, la façon dont, enfin, tout ça, je trouve qu'il se passe des choses en fait au fil du temps.
C'est vrai que quand on accompagne longtemps des élèves ou qui sont dans nos cours depuis longtemps, on voit des transformations. Ils voient les nôtres aussi, mais c'est vrai qu'on voit leur transformation, leur état, leur disponibilité. Et c'est chouette de voir comment ils s'approprient aussi ces différentes choses qui changent au fil du temps. Tout à l'heure, tu parlais d'autonomie, de laisser de la place à l'autonomie, à l'exploration. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment tu amènes les choses, comment tu proposes cette autonomie?
Alors, comment je propose cette autonomie? Il y a un cadre. Forcément, il y a le cadre du cours. Néanmoins, j'essaie de les guider. Il faut ce cadre, il faut une certaine force dans la façon de guider, mais il faut aussi qu'il y ait une souplesse, c'est-à-dire les laisser explorer. Il faut le cadre, mais sans que le cadre soit trop rigide, pour qu'il puisse y avoir cette liberté au sein du cadre. Donc en fait, sur un plan postural, ça se présente. Déjà, je ne montre pas les postures. C'est voilà, sauf public particulier, bien sûr, dans certains cas, mais là, en studio, voilà, pour la majorité des cours en studio à Paris, je ne montre pas les postures et j'invite les gens à trouver leur propre chemin. Donc en donnant des indications, alors évidemment, c'est confus pour la personne qui arrive pour la première fois dans mon cours, c'est un peu difficile. Et j'essaie d'individualiser un petit peu en circulant justement, mais je les laisse un peu explorer, trouver le chemin, peut-être ne pas le trouver tout de suite, peut-être que ce sera la semaine d'après, peut-être dans 3 semaines, mais avec vraiment cette idée-là et plusieurs variations possibles, plusieurs. Souvent j'ai des cours tout niveau et chacun y trouve son compte finalement, en fonction de l'endroit où il est, d'où il part.
Qu'est-ce qui t'a amené à... Est-ce que c'est d'abord un choix, hein? Qu'est-ce qui t'a amené à ne pas montrer les postures?
Eh bien, parce que, en fait, je trouve ça difficile d'enseigner. Enfin, pour moi, enseigner, c'est accompagner. Accompagner un groupe qui est forcément hétérogène. Et donc, si je suis sur mon tapis à faire les postures, je vois pas ce qui se passe, je peux pas les guider, je peux pas individualiser. Je propose une seule et même forme, une posture, qui va être la façon dont moi je fais la posture, mais qui sera pas forcément la façon dont les personnes vont vouloir ou pouvoir la faire. Donc, c'était vraiment, pas envie d'insuffler une directive aussi, aussi forte, aussi précise.
C'est chouette de pouvoir entendre que l'on peut guider un cours sans forcément être dans l'imitation, parce qu'en fait, l'être humain est beaucoup dans l'imitation, on est dans l'imitation, dans le mimétisme depuis qu'on est tout petit, on imite ce que font nos parents, les gestes de nos parents, de notre entourage, de nos frères et sœurs et compagnie. Donc c'est vrai qu'on a cette habitude-là dans le mouvement d'aller dans l'imitation pour reproduire un geste. Donc le fait effectivement de prendre ce parti de ne pas montrer, ça laisse un espace flottant, comme tu me disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand on est là pour la première fois, la deuxième fois et qu'on n'a pas tous les codes, on est un petit peu perdu, on s'accroche, hein. C'est ça qui est génial, c'est que on voit les élèves s'accrocher. Et ensuite, de pouvoir trouver son propre chemin, sa propre forme, c'est extraordinaire.
C'est vrai que ça, c'est un certain inconfort. Effectivement, ça a quelque chose de rassurant de chercher à imiter. Et c'est bien d'imiter, on en a besoin dans notre développement, on a besoin d'imiter. C'est vraiment important. Mais je crois qu'il y a suffisamment de cours. Et si les gens s'y retrouvent pas, bon, bah voilà, c'est normal que certaines personnes se retrouvent pas dans ce chemin. Mais j'ai l'impression qu'ils en retiennent une certaine satisfaction quand ils arrivent eux-mêmes à faire en fait. Et c'est marrant ce que tu sois revenu sur ce thème d'imiter parce que souvent je commence mon cours par la même chose et je le dis sans chercher à imiter. C'est vraiment une phrase que je prononce. Donc c'est marrant que tu sois revenu là-dessus. Voilà, simplement être.
Être, ne pas imiter. C'est un sacré challenge à chaque fois. Parce que c'est vrai que même si on est guidé, on a toujours un petit œil qui va à droite et à gauche, surtout quand on débute, pour tout simplement trouver ses repères. Hein.
Exactement.
Voilà, et à un moment donné, d'avoir cet apprentissage de la distance entre ce que je suis censée faire, là où je devrais aller, ce qui se passe en moi, sans vouloir faire comme les autres à côté. C'est chouette. Et c'est comme quand on est dans le métro, en fait, où on est, pour les non-parisiens qui nous écoutent, quand on est dans le métro aux heures de pointe, il y a des files où il faut suivre un petit peu le chemin. On est un peu comme des moutons les uns derrière les autres. C'est vrai que quand on a envie d'être dans un autre rythme, plus lent ou plus rapide, ça nous demande des adaptations énormes pour pouvoir suivre le flux ou aller contre flux. Et c'est la même chose dans la pratique aussi, c'est de savoir trouver son propre chemin quand il y a des souples et des non souples autour de soi et quand on n'a pas envie d'être dans le même rythme, c'est comment garder une certaine forme d'autonomie. Donc j'aime bien ton idée de garder un cadre qui permet d'avoir cet espace-là à l'intérieur. Et comment tu fais, toi, avec l'alignement? Parce que je te pose la question, sachant où est-ce que tu es à peu près, parce qu'on partage beaucoup de choses autour de l'alignement. On n'est pas forcément dans des règles précises. Et tu l'as dit justement en disant que chacun va trouver son chemin dans la posture. Comment ça se passe pour toi quand tu parles d'alignement?
Alors, ça a été une grande question, hein, puisque j'ai été amenée à proposer une formation d'alignement, alignement ajustement. Et cette formation, elle est le fruit d'une réflexion parce que j'étais perdue. Je lisais un livre, Le Triangle, Trikonasana, La Jambe Arrière, Je voyais rotation externe, dans un autre, je voyais rotation interne. Bon, je lisais des choses dans tous les sens et impossible de. Voilà, je comprenais pas, j'avais pas de réponse. Chaque enseignant à qui je demandais avait sa propre réponse. Et finalement, j'observais une certaine rigidité, puis j'essayais hein, de tâtonner dans mon corps sur les différentes choses. Donc, j'ai lu, j'ai suivi beaucoup de formations et je continue d'en suivre. Et puis, c'est par le biais du yin, finalement, que j'ai continué à explorer à la rencontre avec le livre de Bernie Clark, Votre corps, votre yoga. Et voilà, donc, ça m'a fait vraiment m'interroger sur l'alignement, prendre conscience des variations squelettiques. Et donc, l'alignement, oui, à un moment donné, il est important qu'il y ait quelques repères, disons, mais surtout ne soyons pas stricts par rapport à l'alignement, parce que finalement, cet alignement-là, il n'est là que pour simplifier, en fait, avec un côté réducteur, comment doit être la posture. Et j'ai l'impression que nous nous sommes un peu appropriés, à la fin du XXe siècle, ces questions d'alignement, parce que quand on regarde. Les postures de Krishnamacharya, d'Iyengar ou de Patabi Joyce, on ne voit pas du tout les alignements qui sont écrits noir sur blanc dans certains de nos livres.
Tout à
Donc
fait.
finalement, est-ce que nous n'avons pas eu besoin de ça à un moment donné pour faire nos fameux teacher training et puis pour pouvoir très vite, en 200 heures, fabriquer des enseignants? Donc en fait, dans ma formation d'alignement, on en a beaucoup discuté parce que quand il était question de faire la formation d'alignement, on m'avait proposé, ah, est-ce qu'on peut mettre, tu sais, à un moment ça a été à la mode, le oui, non, croix rouge ou la coche verte. J'ai dit, mais non, mais ça, c'est pas possible parce que je peux pas dire quelle est la bonne posture. Il n'y a pas une bonne posture. Ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi on fait les choses et plutôt que de proposer un résultat, finalement, c'est quel est le chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche comme appui, quels sont les engagements musculaires. L'alignement, je le vois plutôt comme ça, plutôt que de dire, ben, voilà, strictement le genou au-dessus de la cheville, la cuisse parallèle au sol. Enfin, ce sont des lignes, des repères, des guides, mais on ne peut pas enseigner. Alors, on a besoin de quelques repères quand on enseigne à une classe de plusieurs élèves, mais on ne peut pas s'arrêter à cet alignement strict parce qu'il n'est pas vrai, en fait, pour chacun d'entre nous.
Tout à fait. Il part vraiment de constructions qui sont différentes et forcément de réponses musculaires ou d'équilibre qui vont ou nerveuses qui vont être différentes d'une personne à une autre. Et comment ça se produit du coup dans cette formation quand tu proposes cet alignement? Comment réagissent les élèves? Déjà, est-ce qu'ils ont l'habitude d'être dans cette variation squelettique?
Pas du tout. Alors, j'ai eu des tas de réactions. Il y en a qui m'ont dit, oh là là, mais ça fait 3 ans que je dis qu'il faut absolument pas que le genou dépasse la cheville, sinon ils vont se blesser. Donc voilà, il y a vraiment toutes sortes de réactions. Il y en a qui me disent, ah mais enfin, j'arrive à faire un guerrier 1, qui était une posture extrêmement douloureuse parce que quand on te dit qu'il faut absolument que ton bassin soit face à l'avant du tapis dans ton guerrier 1 avec ton alignement talon-talon, c'est pas possible pour tout le monde. Donc, en fait, il y a à la fois des gens qui se disent, ben, mince, j'ai enseigné à mes élèves des choses de façon rigide. Et puis d'autres qui finalement trouvent le chemin dans leur corps, en fait. Et je pense que c'est important parce que tout enseignant qui va trouver le chemin dans son corps va pouvoir accompagner les pratiquants à trouver le propre chemin. Et surtout, dans ces formations, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà plusieurs corps. Et je les invite à travailler beaucoup les uns sur les autres et à explorer et à se rendre compte, bah oui, en fait, on ne fonctionne pas pareil. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans le guerrier, hein? Est-ce que c'est vraiment d'avoir le bassin face à l'avant du tapis? Est-ce que c'est vraiment une fin en soi?
Du moment que le genou dépasse pas les orteils. Non, je
Voilà.
plaisante. C'est vrai qu'on est fixé sur ça. Moi, je suis toujours scotché et émerveillé et atterré en même temps. J'ai un mélange d'émotions quand je me balade sur Instagram et que je vois effectivement les petites croix rouges, les petites croix vertes de il faut, il ne faut pas. Et c'est fou parce que Le yoga est censé nous emmener vers une forme de libération. Et en fait, dans le yoga postural, on s'est mis un nombre d'injonctions et de règles qui finalement nous emmènent complètement à l'opposé de cette libération. On se retrouve attaché à une forme plutôt que de se libérer de la forme. Donc c'est vraiment extraordinaire de se rendre compte en fait comment ça a évolué. Alors est-ce que c'est l'effet visuel des différents réseaux sociaux, des magazines de yoga, parce que avant les réseaux, il y avait les magazines et on est vraiment sur un pouvoir de l'image qui est vraiment important. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une dérive? Est-ce que c'est les formations qui nous ont emmenés sur ça? Donc ça, c'est un autre débat. Je pense pas que on ait besoin de débattre là-dessus. Mais c'est vrai que de pouvoir avoir cette possibilité d'explorer, de regarder ce qui se passe chez les autres. Et ensuite, de pouvoir l'explorer sur soi. Et comme tu disais tout à l'heure, quand un enseignant a exploré en lui-même, qui avait plein de chemins, il est en mesure d'accompagner d'autres élèves à l'exploration de ces chemins, ça nous emmène dans une forme de liberté aussi et de paix.
Oui, et puis ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Ce qui est important, c'est pas de dire il faut que le genou soit au-dessus de la cheville parce que c'est comme ça, il faut que le genou soit. C'est parce que finalement, il y a plein de postures qui peuvent être réalisées différemment pour des raisons qui peuvent être différentes.
Oui, et puis en plus, sous le couvert de on fait cette posture de cette manière pour protéger, on se rend compte qu'effectivement, dans certains cas, ça protège, et quand dans d'autres cas, c'est complètement l'inverse. On va plutôt fragiliser que de protéger. Donc, c'est toujours désarçonnant. Moi, j'appelle ça le choc des cultures quand on a l'habitude d'avoir un alignement assez strict et quand on arrive dans cet espace-là où on doit apprendre à faire confiance à son propre corps, ça demande un sacré courage.
Oui, et puis je crois qu'effectivement le corps est intelligent. Je pense qu'il faut lui faire confiance. À un moment donné, il va pas aller dans une direction qui va le blesser. Du moins dans un cours de yoga, on travaille quand même qu'avec le poids du corps. On n'a pas de force. Enfin, on supporte pas des poids. Et autant ça marche assez bien, je trouve, dans les cours de prénatal ou avec les femmes enceintes qui se font beaucoup plus confiance. On a tendance à leur dire, mais voilà, écoutez votre corps. Il va vous dire tout de suite si la posture n'est pas adéquate, et les gens ont un peu plus de mal. Donc je trouve que c'est important aussi de leur proposer ce chemin, quoi, de faire confiance à son corps. À un moment donné, ben, si la respiration est altérée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la posture. Donc avant de se poser la question de l'alignement, posons-nous la question de la respiration.
Du stress dans la posture, de l'état émotionnel,
Oui.
de ouais.
Après, il faut quand même donner un minimum de repères pour que, voilà.
Oui, pour savoir si le bras il est en l'air ou s'il est hors
Voilà.
du corps, par exemple.
Il faut quand même un minimum de repères, hein. C'est pas l'anarchie complète les cours, mais. Et puis, c'est ça qu'il faut individualiser aussi, d'où l'importance de ne pas être sur son tapis. C'est-à-dire que une personne, c'est comme les ajustements. C'est difficile de proposer un ajustement pour une posture qui irait pour tout le monde. C'est pareil, en fonction d'où en est la personne, du rapport à son corps, le travail avec son corps, de sa morphologie, on va pas s'attacher à la même chose. Finalement, c'est très individualisé.
Et puis en plus, chacun va avoir une intention différente finalement, parce qu'on va pratiquer pour la force, on va pratiquer pour le fait d'être ancré, on va pratiquer pour se sentir bien dans son corps, on va pratiquer pour avoir ne serait-ce que des notions de son corps, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, depuis qu'ils sont petits, ont appris à s'asseoir et à ne pas découvrir leur corps, et c'est uniquement le mental, et tout est mentalisé, etc. Donc il faut se réapproprier le corps. Donc
Exactement.
effectivement, le fait de pouvoir explorer, de pouvoir essayer, de pouvoir laisser de l'espace aussi, ça nous permet d'aller dans cette connaissance de son propre corps et de l'appropriation. Donc effectivement, au départ, on va peut-être avoir des intentions qui sont différentes chez les pratiquants, et forcément, comme tu le disais, les ajustements ne seront pas les mêmes pour chacun d'entre eux.
Et puis si on remonte à Iyengar ou à Krishnamacharya, c'était individualisé, en fait.
Oui, et puis en plus, c'était pas des cours énormes. Je sais pas s'ils
Non.
étaient nombreux, mais ils étaient pas aussi nombreux qu'on pourrait le
Et
croire, je
puis
pense.
c'était très différent. Donc, c'est vrai que je pratique hein, l'Iyengar, je suis des cours d'Iyengar et donc je côtoie aussi. Mais il y a beaucoup de professeurs d'Iyengar qui ont fait du chemin par rapport aux alignements qui étaient ceux qu'on disait être les alignements stricts, justement, avec l'expérience, en fait, le bon sens. À un moment donné, c'est une question de bon sens.
Mais c'est ce que je trouve parfois délicat, c'est que on est empreint de respect de la tradition et qu'on a du mal parfois aussi à dénouer un petit peu ce qui se passe derrière la tradition. Comme le yoga est là depuis longtemps, on passe d'un maître à un élève, d'un maître à un élève, etc. Il y a une transmission comme ça. C'est vrai qu'on se dit que si on décide de mettre plus de connaissances anatomiques, de connaissances neurologiques, etc. On amène ce qui est nouveau dans les connaissances scientifiques, mais du coup, on perd ce respect de la tradition. Donc, c'est vrai que ça demande aussi ça demande un travail sur soi de pouvoir dire, OK, ça c'est la tradition, mais est-ce que la tradition, elle se vérifie? Est-ce que pour moi, ce que j'ai reçu de la tradition, c'est ce que je ressens dans mon corps, ou est-ce que c'est différent? Et ça demande encore une fois du courage de pouvoir dire, OK, je mets de côté la tradition pour essayer de comprendre ce qui se passe en moi et si le chemin que l'on me propose est celui que je ressens. Je ne sais
Oui,
pas ce
parce
que
qu'en
tu en
plus,
penses.
ce qui est juste, c'est pas, est-ce que la tradition, finalement, c'est ce que je reçois de la tradition, c'est comment j'ai reçu ces informations, parce que bon, ça serait un vaste débat. Qu'est-ce qu'un yoga traditionnel versus non traditionnel, hein, si on reprend nos petites images
C'est ça.
vertes et rouges, mais effectivement, c'est et puis le corps yogique, c'est pas le corps anatomique, voilà. Beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se saisir en tant qu'enseignant, surtout pratiquant aussi, mais surtout enseignant. Notre rôle, c'est un peu de se saisir de toutes les informations qu'on peut avoir afin de transmettre ce qui paraît le plus juste, sans être dogmatique.
Sans être dogmatique, c'est juste. Et de se rappeler qu'il n'y a jamais qu'un seul chemin et que parfois on se retrouve perdu aussi parce qu'on est à la croisée des chemins et on ne sait plus où regarder, comment regarder. Et le fait de se poser permet de repartir après. C'est pour ça que le yin, ou en tout cas l'énergie du yin, nous permet de nous arrêter, de nous poser avant de repartir sur cette dynamique.
Elle est importante, cette énergie du yin.
Ouais. Ce qui n'est pas évident à mettre en place quand on vit dans une grande ville, qu'on a un rythme soutenu, c'est vrai que c'est un rappel à être dans la contemplation aussi, peut-être.
Complètement.
J'en ai fini pour mes questions. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant de.
Non, c'est toujours intéressant parce qu'en fait, comme tu disais, on n'a pas toujours le temps d'échanger. On se croise beaucoup et finalement, ça nous fait avancer d'échanger.
Absolument.
Ça fait avancer notre réflexion et forcément notre enseignement.
Absolument. Et moi, j'aime bien ça de pouvoir échanger avec tout le monde, hein, que ce soit des enseignants, que ce soit des pratiquants, parce que on finit par recevoir des petits cadeaux, des petites pépites, parce que le retour de l'un, l'appropriation de l'autre, ça nous permet de comprendre encore plus comment fonctionne l'humain et nos différences. Et ça nous ouvre aussi beaucoup de portes. Au lieu de fermer en disant, ben voilà, on va faire que comme ça, que de cette manière-là, ça nous permet aussi de laisser de la place à chacun et même de se dire, ah ben tiens, moi, je suis pas en capacité de t'aider, mais tu peux aller voir telle personne qui sera bien plus en mesure de t'accompagner par rapport à ce que tu demandes, par rapport à tes intentions. Et je trouve ça super de pouvoir échanger, de pouvoir parler ensemble, de pouvoir même ici avec les auditeurs, hein, pouvoir montrer nos différences aussi pour que chacun puisse se dire, mais en fait, la voie du yoga, elle est multiple et chacun va se trouver son chemin à travers les différentes choses qu'on va entendre, qu'on va voir, qu'on va lire. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir échanger. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions cet après-midi.
Merci beaucoup, Sandrine.
Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt, oui.
Pour conclure, je reprends l'une des phrases de Vanessa. Il se passe toujours quelque chose lorsque l'on pratique le yoga. Il se passe toujours quelque chose lorsque l'on pratique le yoga. C'est tellement vrai. Et que ce soit du yoga postural ou n'importe quelle autre branche de la pratique. Et parfois, cela nous prend par surprise, là où on ne l'attendait pas. En tout cas, je ne sais pas vous, mais Vanessa me donne toujours envie de ralentir et de prendre mon temps. Alors, dites-moi ce qui vous a plu dans cet échange, ce qui a résonné pour vous. Pour cela, il suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify, ou à l'ancienne, avec un petit mot par mail que je serais ravie de transmettre aussi à Vanessa. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur les ondes de Blabla Yoga, abonnez-vous pour recevoir une note lors de la sortie d'un prochain épisode. Au plaisir donc de vous lire et d'échanger avec vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne pratique libre et sans complexe. À bientôt !